Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les mecs que je veux ken. Mes oursins, mes oursonnes, aujourd'hui je reçois la troisième camarade du podcast Spotify Hotline de l'été, après Chloé et Naya, Laetitia Reboulot. Journaliste passionnée depuis l'enfance, Laetitia avait co-créé le journal de son école primaire et elle s'amusait à imiter Claire Chazal devant sa télé. Nous avons beaucoup parlé de grossophobie à l'occasion de la sortie de son livre « Journal de bord d'une grosse » disponible en exclusivité sur la plateforme Doors Stories. De mon côté, je suis toujours à Belle-Île, aujourd'hui il fait pas très beau, donc je reste un peu avec ma mère à l'hôtel, on a bien baroudé hier, la pauvre s'est cassée la gueule en vélo électrique, donc là elle est bien contente de se reposer. Moi j'essaie de bosser, mais il n'y a pas beaucoup de réseau, j'ai lu un très beau livre, Homme, d'Emmanuel Richard, très sensuel et complexe, elle me l'avait envoyé, on s'est écrit sur Insta, on va se rencontrer à la rentrée à la nouvelle scène, on boira certainement un coup après mon spectacle, je lirai ses romans précédents et l'inviterai dans le podcast. Je me demande si je ne vais pas cesser les éditions d'hiver et d'été avec les femmes pour tout mélanger. Que la programmation soit mixte et variée toute l'année, et surtout basée sur le calendrier et les dispos, les actus, non pas sur le genre quoi. Je rentre mercredi prochain de Belle-Île, puis je repars jeudi, je vais jouer mon spectacle à Belfort, re-retour le vendredi, quelques machines, ménage, voir mon chat, garder mon bébé neveu adorable, et redépart dimanche prochain le 21 pour Los Angeles. Je vais à nouveau tourner dans un court-métrage de Marina Ziolkowski, qui avait réalisé Extra Large avec Barbara Butch et Bérangère MacNeise. J'avais partagé la BO du film dans le podcast, et surtout les liens de teasers, etc. sur Insta. Je resterai à L.A. jusqu'au 2 septembre, ça va encore être une sacrée aventure. À partir de cet épisode, je ne sors plus deux épisodes par semaine, mais un jusqu'à la fin de l'été. Lundi prochain, le 22, vous aurez une amie humoriste, puis le dernier lundi d'août, le 29, vous aurez une écrivaine dont le livre fait partie de la rentrée littéraire. Puis je passerai à une semaine sur deux, et l'épisode de rentrée sera donc publié lundi 12 septembre. On entamera la saison 4 avec un humoriste, dans la pure tradition des mecs que je veux ken. En outro, je vous donne plus de détails sur mes projets de la rentrée, mais assez parlé de moi, maintenant place à Laetitia. Ah, et désolé pour les petits bruits de fond qu'on entend au début, c'était un technicien de la SACD qui nous dépannait avec Marie pour filmer le moment du poème. Marie est une jeune amie qui m'a aidée pour la communication du podcast sur les réseaux. À partir de la rentrée, je filmerai le poème avec mon iPhone, pas avec les caméras de la SACD. Parfois je filmerai pas, on verra. Ce qui compte c'est le son et votre sensation. Bonne écoute.
Là ça fait pas longtemps que je suis à temps plein sur le même poste, mais avant, ouais, quand j'étais pigiste un petit peu partout, fallait que j'envoie toutes mes fiches de paye de l'année sur tous mes employeurs.
Putain.
Et du coup, quand j'ai vu que ça faisait 90 fiches de paye à envoyer, j'étais là en mode non, non merci.
T'as refait du rose?
Ouais.
Ça te va trop?
Ouais,
j'en ai...
Bah là, il est un peu trop violet à mon goût, mais ça va partir normalement au prochain shampoing pour redevenir bien rose.
Ah, j'aime bien, c'est comme ça.
Mais ouais, ça,
ultra
pas mal,
pétant,
ça a
quoi.
Pas mal de succès, mais là, je vais repartir sur un rose bien fluo pour le okay. Printemps. Ouais, j'en pouvais plus du brun que j'avais refait en racine, ça m'a saoulé au bout d'un mois et demi.
Ah ouais, mais je sais pas pourquoi, maintenant je me dis, mais j'étais tout... Enfin, je vois un truc plus vif, mais je me souvenais pas de brun.
Ouais, si, j'avais du brun sur ça, en fait, parce que je m'étais dit, je vais peut-être revenir à ma couleur naturelle.
Ouais.
Tu parles. Un mois, et j'étais là en mode, non, le rose.
Bah ouais. Ouais, ouais, non, tu m'étonnes, ça te va trop. En fait, naturellement, tes cheveux, ils sont brun-brun.
Et ils sont noirs.
Ah ouais, noirs.
Ouais, ouais.
Et t'es de quelle origine?
Bah, j'ai des... ça remonte à très loin, mais ouais, j'ai des racines marocaines. Donc du coup, j'ai les cheveux très noirs, très drus, très épais, très bouclés.
Ok, et les yeux très clairs.
Ouais.
Et donc t'as peut-être des origines kabyles ou berbères.
Alors ça, je pense que les yeux, j'ai pris du côté de ma mère. Ma mère, elle a okay, les yeux mais verts, transparents, oh, verts d'eau.
Ah ouais, c'est trop beau.
Donc du coup, je pense que j'ai pris les yeux de ma mère et les cheveux de mon père.
Ok,
et...
c'est ton père qui a des origines lointainement...
Bah c'est mon arrière-grand-père, mes arrière-grands-parents qui étaient marocains.
Ok. Pieds noirs ou non,
marocains? J'en ai aucune idée, je les ai jamais connus, donc faudrait que je demande à mon père, je sais qu'il a fait tout notre arbre généalogique jusqu'au XVIIe siècle.
Ok, ah ouais.
C'est une de ses petites passions.
Bah ouais, dis donc, si ça remonte jusqu'au XVIIe, c'est que ça veut dire que c'est une grande lignée.
Ouais, on a une grande lignée qui est éparpillée un petit peu partout, on a retrouvé des racines en Islande, enfin...
Dingue. Il y a des gens comme ça qui sont passionnés de généalogie, j'ai un cousin aussi qui l'est. Et vraiment, c'est son kiff, quoi. Il fait l'arbre tout le temps. Tout le temps, il retrouve des gens dans l'arbre. Comme ça, on dirait un singe. Voilà. Est-ce que tu es prête pour ton petit poème?
Je suis prête.
Ma chère Laetitia, quelle joie de te recevoir dans mon podcast, ma camarade Dotline, avec qui j'ai quelques désaccords parfois, mais on débat sur le polyamour ou les rapports de domination. Au départ, il n'y en avait pas pour moi dans les couples avec des différences d'âge. Quand j'ai commencé Hotline. Mais depuis, j'ai un peu changé. Je suis moins amorale, je me suis un peu wokisée. C'est pas toujours facile pour moi de jongler entre deux milieux, celui de l'humour et celui du podcast. Pour les humoristes, je suis la féministe radicale et pour mes amis journalistes activistes, je suis un peu le cliché de l'hétéro pas déconstruite. Et c'est vrai que j'ai encore du travail, mais je me sens évoluer à ton contact, grâce à ta douceur et ta pédagogie, pour ne pas utiliser le terme bienveillance un peu galvaudé. Car ce qui te caractérise en premier, Laetitia, c'est ton intelligence, ta finesse, ton esprit critique et ta force. Tu es une chef d'entreprise, puissante et indépendante. Tu as été l'une des premières de notre groupe à venir voir mon spectacle au point virgule. Tu es même venue une deuxième fois, je crois. Tu as tout de suite retweeté l'article que j'avais eu dans Télérama, lu mon livre dès qu'il est arrivé dans ta boîte aux lettres, c'est ça. Tu appliques à la lettre les principes de la sororité. Et c'est sincère, c'est pas politique, pas stratégique, c'est qui tu es. Tu aimes les femmes, tu les soutiens, tu leur donnes confiance en te donnant confiance. Merci Laetitia d'être toi et d'être mon amie.
Merci beaucoup, ça me touche énormément.
C'est vrai qu'en fait, ça va bientôt faire un an.
Bah ça fait plus d'un an qu'on s'est rencontrés la première fois. Parce que c'était en janvier qu'on a passé les auditions pour Hotline.
Ah ouais, moi je sais pas pourquoi dans ma tête on se connaissait depuis juillet dernier. Mais
ah quoi que non, on a été contactés en janvier.
Ouais.
Et je crois qu'on a passé les auditions en avril peut-être.
C'est ça, ça a commencé à partir d'avril, ouais, donc il y a pile un an.
Il y a pile un an.
Et c'est fou parce que en fait on se connaît hyper bien. Enfin tu sais, c'est genre l'amitié express.
Bah, c'est un peu l'avantage des podcasts comme ça où on raconte nos vies, on partage beaucoup d'expériences personnelles. C'est que du coup on apprend très vite à se connaître. C'est un petit peu l'effet télé-réalité entre guillemets.
Ouais.
Où à force d'être les uns sur les autres, les gens ils créent des relations très très vite et on se dit c'est pas possible qu'ils soient tombés amoureux en trois jours comme ça. Mais en fait quand tu t'en apprends autant sur une personne d'un seul coup, tu
ne peux pas ne pas tomber
c'est
en amitié.
Il ouais. y a que deux options, c'est soit tu vas détester la personne, soit tu vas l'adorer.
C'est ça.
Et dans notre cas, on a choisi la deuxième option.
On a choisi ou c'était aussi un hasard heureux qui fait que en fait il y a eu un bon groupe quoi. Ou tu penses qu'on a choisi quand même?
Je pense qu'on choisit toujours un petit peu les personnes avec qui on s'entend, les relations, la façon dont on peut s'accorder avec quelqu'un. C'est quelque chose dont on avait parlé dans un épisode d'Hotline, où justement tu avais dit qu'on pouvait un peu choisir de qui on tombait amoureux.
Ah oui.
J'étais pas d'accord à l'époque, et en fait j'y ai beaucoup réfléchi depuis.
Ok.
Et en fait je me dis qu'effectivement, si on peut choisir de pas tomber amoureux de quelqu'un qui a pas les mêmes valeurs que nous, on peut aussi choisir de tomber amoureux de quelqu'un qui partage ses valeurs.
Ouais.
Donc voilà, je pense qu'il y a une part des deux, donc d'un côté on l'a choisi, de l'autre côté ça a été un heureux hasard parce que sans Hotline je sais pas
comment on se serait
croisés.
Ça veut dire que moi de mon côté je réfléchis quand tu dis quelque chose, mais donc toi aussi de ton côté quand tu dis quelque chose.
Évidemment, c'est pour ça que j'adore débattre avec toi en fait, parce que même si on n'est pas toujours d'accord, c'est comme ça qu'on évolue en fait. Si on est toujours d'accord avec quelqu'un, il n'y a pas d'émulation.
Bah carrément, et en plus quand je disais on choisit de tomber amoureux, je pensais pas du tout au mariage forcé, je pensais plus au fait que bah, y a une part de décision, ouais, de rationnel, un peu en tout cas dans une relation. Enfin, aussi, c'est ça, c'est choisir d'être avec quelqu'un. Parce qu'à un moment, oui, au-delà de l'attirance ou des sentiments, tu peux un peu décider de tomber amoureuse bah, quand tu sens que t'es prête et que tu... Ouais, il y a une part quand même. C'est pas que les étoiles et le... Tu vois, ce truc de coup de foudre. Et je sais plus, je réfléchissais, je voyais un truc sur Insta, je sais pas ce que t'en penses, au débat. Quelqu'un qui disait, ouais, faut prendre de la distance par rapport à ces histoires de red flag et green flag. Parce que, est-ce que c'est pas une nouvelle façon de culpabiliser les femmes?
Ouais, c'est assez compliqué de voir en fait que certaines personnes ont des red flags et des green flags qui peuvent être totalement l'opposé chez d'autres personnes. Autant, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on sera toutes d'accord au niveau des comportements qu'on ne veut plus accepter. sur le machisme, le sexisme, ce genre de choses. Mais après, je sais qu'il y a plein de femmes, par exemple, et j'en fais partie, qui adorent cuisiner pour leur mec, qui adorent avoir des petites attentions, qui ne sont pas forcément dérangées quand, quand leur partenaire est moins engagé dans, disons, dans les tâches ménagères ou dans toute autre tâche de la relation. Ce n'est pas très féministe de ma part de le dire, mais d'un autre côté, c'est vrai. Donc,
Ouais, et puis, en fait, à partir du moment où c'est ce que tu aimes, c'est vrai qu'il y a plein de femmes qui, en effet, aiment cuisiner, qui envoient pour l'orgasme. Pour elles, c'est le témoignage d'amour. Et j'avoue, tu vois, moi, je cuisine pas du tout. Est-ce que c'est un acte féministe ? Ça m'arrangerait bien. Je pense que comme ma mère cuisinait pour mon père et que je l'ai beaucoup vu, peut-être que c'est un peu conditionné. Toi, est-ce que le schéma parental a un peu aussi influencé la féministe que t'es devenue ?
Oui et non, parce que moi, mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune.
Okay.
Donc du coup, j'ai jamais vraiment connu mes parents ensemble, parce qu'ils se sont séparés quand je devais avoir moins de 10 ans. Mais du coup, j'ai pu observer les différents types de dynamiques. Et autant ma mère, elle a toujours été mère au foyer jusqu'à très tard, à s'occuper des repas, à s'occuper des enfants. Autant mon père, c'était celui qui bossait, mais quand il était avec ma belle-mère, c'était aussi lui qui cuisinait. Mmh. Il prenait une vraie part dans l'éducation. Enfin, mon père a toujours été quelqu'un de très engagé envers la cause des femmes.
Okay.
Je ne veux pas dire que c'est un homme féministe, parce que je pars du principe qu'un homme est plus un allié qu'un vrai féministe.
Ouais.
Mais en tout cas, il m'a appris beaucoup de choses à ce niveau-là. Il m'a toujours appris à être indépendante et à me dire « si tu veux cuisiner pour quelqu'un, c'est très bien. Mais si tu n'as pas envie de le faire, tu n'auras jamais à te forcer à le faire. »
Ah, c'est marrant. Ça veut dire que donc finalement, cet héritage te viendrait plus de ton père que de ta mère ?
C'est possible, parce que j'ai toujours été plus proche, je pense, de mon père, d'un côté. Hein, je pense que je suis l'archétype de la fille à papa.
Ok.
Et aussi parce que j'avais toujours trouvé un petit peu les valeurs de ma mère un petit peu vieillissantes, peut-être. Je respecte tout à fait le fait qu'elle ait choisi de sacrifier sa carrière et de rester à la maison pour nous élever, mes frères et moi. Mais j'étais pas d'accord avec elle, surtout dans le sens où elle estimait que c'était plutôt aux femmes de faire la cuisine, aux femmes d'écouter les hommes. Et on en discute beaucoup et elle évolue beaucoup par rapport à ça aussi.
Okay.
Mais voilà, elle vient aussi d'une autre génération et ses parents, peut-être encore plus qu'elle, ont cette philosophie de l'homme travaille et la femme s'occupe un peu plus de la maison. Donc voilà, ça me permet de voir un petit peu l'évolution des générations. Et peut-être que si ma mère avait été plus féministe, moi, par esprit d'opposition, vu que j'étais une ado un petit peu rebelle, je me serais peut-être rentrée dans un autre système.
Ouais, parce que ta mère, après le divorce de tes parents, elle a trouvé un autre compagnon aussi.
Voilà, elle s'est remariée. Ils ont fêté leurs 19 ans de mariage il n'y a pas très longtemps.
Ok, d'accord. Et lui, ce beau-père avec qui tu t'entendais bien aussi ?
Je m'entendais bien avec lui. Maintenant, c'est plus compliqué. Ça dépend un petit peu des périodes et de si j'arrive à mettre de l'eau dans mon vin ou pas. Parce que pour le coup, voilà, on a plein de valeurs qu'on ne partage pas du tout. Mais voilà.
Les élections, ça se tend un peu. Ouais.
On évite globalement de parler politique de ce côté-là de ma famille, parce qu'on sait qu'on n'est pas d'accord. Et en fait, on n'a pas envie que ça devienne un sujet de conflit.
Ah, c'est délicat. Moi aussi, je vois avec ma mère, là, elle est en train de. Ma mère, elle est fan de Macron, quoi.
Je sais qu'il y a pas mal de membres de ma famille qui ont voté pour Marine Le Pen à la dernière élection.
Okay.
Moi, c'est hors de question. C'est totalement contraire à tout ce que je suis, à tout ce que j'ai envie de représenter et à tout ce que je ressens. Donc, même si ça ferait probablement très plaisir à certains membres de ma famille, mon bien-être et mon intégrité passent avant le fait qu'ils soient déçus de moi à ce niveau-là.
T'as grandi où ?
J'ai grandi dans le sud de la France. Enfin, tout le monde n'est pas d'accord sur le sud. J'ai grandi en région lyonnaise.
Ah oui, la région lyonnaise, oui, c'est d'accord, c'est le sud un peu peu plus haut quand même.
C'est le sud pour les Parisiens, mais le nord pour les sudistes.
Ouais, c'est ça. D'accord, en région lyonnaise. Et t'es montée à Paris quand ?
J'ai emménagé à Paris l'année de mes 18 ans pour faire mes études. Okay. Et pour renouer un petit peu aussi avec mon père, qui lui vivait à Paris depuis une petite dizaine d'années quasiment.
Ok.
Et avec qui on s'entendait très bien, mais le fait de ne pas avoir vécu toute mon adolescence avec lui, j'avais un petit peu l'impression de ne pas le connaître aussi bien que j'aurais voulu. Et voilà, il m'a vraiment accueillie chez lui à bras ouverts. Moi, ça me permettait d'avoir un point de chute à Paris et de ne pas me dire je débarque avec mon cartable et ma mentalité de petite campagnarde, parce que j'ai vraiment grandi dans un petit village de moins de 10 000 habitants.
Ok.
Un village où il y a plus de moutons et de vaches que d'habitants et où tu as plus de chances de te faire percuter par un tracteur que par une voiture.
Ah ouais.
Donc voilà, c'était un petit peu ma couverture de sécurité, on va dire, à Paris. Et puis au final, depuis, on est devenus...
super potes.
On est devenus super proches. On travaille sur le même lieu. Il me donne des conseils boulot. Je lui en donne aussi.
Ouais, c'est fou.
Donc voilà, on a développé une relation qui va au-delà de tout ce que je pouvais imaginer à l'époque. Et je pense que si j'avais pas emménagé à Paris, j'aurais peut-être pas eu cette relation-là avec mon père.
Et lui, il avait retrouvé une compagne après la
oui.
séparation. Ouais.
Oui, oui, bah tout. Enfin, mon père comme ma mère se sont retrouvés en couple très peu de temps au final après leur rupture.
Les Rebouleaux, ils sont tout le temps en couple, en fait, toi aussi.
Mes petits frères seront peut-être pas d'accord, mais peut-être que sur ça, ouais. Et oui, mon père s'est remis en couple avec quelqu'un que j'ai eu beaucoup de mal à accepter au début.
Ok.
Les premiers mois ont été très, très compliqués parce que bah, j'avais aussi cette mentalité de la petite fille qui était triste que son père soit plus tout le temps à la maison. Du coup, c'était un petit peu « tu m'as volé mon papa
mm-hmm. ».
J'étais très jalouse
mm-hmm.
et en fait ça a fini par se décanter et ma belle-mère est une personne absolument formidable que j'aime de tout mon cœur. On est très proches et je la considère comme une des personnes les plus merveilleuses de cette planète d'ailleurs.
Wow.
Voilà, je l'adore et puis en plus c'est la mère de mon petit frère et de ma petite sœur donc mm-hmm. Forcément on a quelque chose qui est très fort entre nous.
Vous êtes une famille recomposée, c'est ça ? T'as deux frères biologiques et deux...
Alors, j'ai 5 frères et sœurs.
Ok.
J'ai un grand frère et 3 petits frères du côté de ma mère.
Uh-huh.
Et un petit frère et une petite sœur du côté de ma belle-mère. Et on est tous du même père.
Mais de tes parents, tu es la seule ?
Non, on est 4 du premier mariage donc de mes parents.
Ok.
Et j'ai 2 demi.
Et 2 demi. Voilà. Ah oui, 4 ? Et t'étais très jeune quand... Oui, c'est des aînés, c'est
voilà,
ça.
Voilà, j'ai un grand frère et mon plus jeune frère était tout petit, tout bébé quand mes parents sont séparés.
Ok. Ah oui, donc t'as pas connu tes parents amoureux ?
Bah, pas au point de m'en souvenir en tout cas, parce ouais. que forcément, quand t'as moins de 10 ans, c'est difficile d'avoir des souvenirs précis de tes parents, parce que ouais. c'est un peu la période où quand t'as deux adultes qui s'embrassent autour de toi, t'es un peu en mode « bah, vous êtes dégueulasse ouais. !» Donc j'ai pas énormément de souvenirs de mes parents amoureux, mais j'ai toujours des souvenirs de mes parents qui, en dépit de leur divorce, se sont toujours bien entendus parce qu'ils ont toujours fait passer notre bien-être avant les désaccords que eux pouvaient avoir.
D'accord, ah ouais. Mais cela dit, tu voyais moins ton père quand même qui lui était à Paris pendant que toi tu grandissais dans cette...
C'est ça, bah, je le voyais les vacances et les week-ends quand je pouvais aller à Paris aussi. Mais du coup, bah forcément, je
l'ai vraiment retrouvé.
C'est ça, à 18 ans.
Ouais. Ça a dû. Oui, c'est particulier. Et comment tu. Aujourd'hui, tu parles. Enfin, tu poses sur Instagram et t'es hyper belle et t'assumes vachement ton corps. Mais est-ce que ça. Enfin, on en a peut-être déjà parlé dans des épisodes d'Hotline, mais je trouve que dans les épisodes d'Hotline, on parle vachement de la vie contemporaine.
Mm-hmm.
Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'avais envie un peu de te poser des questions sur ton enfance, en fait, sur la petite fille Laetitia, tu vois, justement, le rapport à ton corps, est-ce que ça est tout de suite, justement, dès l'adolescence, au moment où tu t'es rebellée, tu t'es dit, en fait, voilà, bah, je vais assumer, en fait, de pas faire un 34 ou t'as passé par une phase où c'était pas évident immédiatement.
Ça a pas été évident pendant une bonne partie de ma vie. D'ailleurs, je me suis rendu compte il y a quelques années en feuilletant les albums photos de ma jeunesse que en fait j'avais très peu de photos de moi. Soit parce que je me débrouillais tout le temps pour être la personne derrière la caméra, soit parce que j'allais me cacher un petit peu derrière les autres. Parce que bah quand tu grandis en étant la petite fille grosse. T'as toujours un petit peu envie de te cacher parce qu'on te fait des réflexions, on te dit que t'es pas comme les autres. Moi, ma mère a toujours été très mince pendant ma jeunesse et donc du coup, elle comprenait pas en fait comment elle pouvait être mince et faire attention et comment moi, peu importe les régimes que j'ai pu m'imposer pendant mon enfance et mon adolescence, et Dieu sait qu'il y en a eu, j'étais pas mince.
Et tu sais pourquoi ?
Eh ben, je sais pas, je pense qu'il y a un mélange de plein de choses. Je me suis battue contre des troubles du comportement alimentaire depuis très jeune. J'ai toujours eu un très mauvais rapport avec la nourriture parce que j'ai fait mon premier régime, je devais avoir 7 ou 8 ans.
Ah ouais.
Parce que déjà à l'époque, j'étais grosse alors que... Enfin, j'étais grosse. Entre guillemets, parce ouais. que quand je regarde les photos maintenant, je trouve pas ça choquant. Mais disons que j'étais plus rondelette que des petites gamines filiformes. Et du coup, j'ai commencé les régimes très tôt et du coup, ça m'a donné un très très mauvais rapport avec la nourriture contre lequel je me bats encore aujourd'hui. Et voilà, et du coup j'essaye de me déconstruire par rapport à tout ça. Je vois une psy, je vois une nutritionniste qui, avec laquelle on fait beaucoup de travail à ce niveau-là. Et j'essaye d'accepter aussi que ça fait sans doute un petit peu partie de ma morphologie. Il y a toute une partie de ma famille, on est beaucoup à être en surpoids dans ma famille. Et je sais que pour avoir fait des analyses très récemment, je suis en très bonne santé.
Ouais.
Contrairement à ce que me disent tout le temps les rageux sur Internet qui disent « Ah, tu dois être blindé de cholestérol, tu dois avoir du diabète. » Bah non, j'ai des analyses qui sont tout à fait dans la norme d'une personne mince. Donc voilà, je sais que c'est pas une question de manque de volonté.
Mmh.
Parce que voilà, j'ai toujours fait du sport, j'ai fait du volley pendant 5 ans, j'ai fait de la natation et de la danse pendant 10 ans.
Wow.
Donc voilà, je pense que ça fait peut-être aussi un petit peu partie de ma morphologie et j'ai décidé d'arrêter de me battre contre ça. Parce qu'à partir du moment où ça ne nuit pas à ma santé et où moi je me sens bien dans ma peau, je ne vois pas pourquoi je ferais des régimes qui sont hyper toxiques et hyper dangereux pour la santé, juste pour plaire aux gens qui estiment que je serais plus jolie si je faisais 20 kilos de moins.
Oui, surtout qu'en plus, il y a des femmes très minces qui sont en très mauvaise santé.
Enfin, exactement.
C'est ça aussi... le risque, quoi, mais c'est fou. Moi, c'est vrai que, tu vois, j'ai trop hâte de lire ton livre sur la grossophobie.
Je pourrais t'envoyer, si tu veux, les premières pages, premières épreuves.
S'il te plaît.
Il y a 30 chapitres qui vont sortir pendant un mois.
Okay.
Le premier commence le jour de mon premier régime, donc à 8 ans.
D'accord.
Et ça parcourt vraiment mon enfance, mon adolescence et mon âge adulte. Par rapport au poids, au régime, au regard des autres.
Ah, génial. Ça m'intéresse parce que finalement, la grossophobie, je pense que oui, j'en avais hérité. Mon père faisait de la grossophobie, comment on dit, internée ?
Internalisée.
Internalisée,
voilà. Ou intériorisée, je ne sais jamais comment ça se prononce, mais oui, parce que lui était...
Lui était fort, et son frère aussi. Après, il y avait aussi une question de morphologie, hein, de robe de laisse, de polac, voilà, d'homme très bâti. Mm-hmm. Son père était plus mince, mais sa mère était très, très forte. Et puis après, il y avait aussi, bien sûr, la boulimie. Hein, que ça... mais c'est vrai qu'il ne se voyait pas trop comme ça. Alors que je le raconte dans mon livre, hein, en effet, lui et son frère, qui étaient tous les deux très gros, se sont retrouvés dans un ascenseur. L'ascenseur s'est arrêté, tu vois.
Ah oui.
Ils se sont retrouvés enfermés. Mais au lieu de... C'était quelque chose qui retournait contre les autres.
Bah c'est souvent comme ça, en fait, parce qu'on a, à force d'entendre dire qu'on est gros et que c'est mal d'être gros, que c'est presque une bêtise, en fait. C'est comme ça, moi, que je le voyais quand j'étais enfant. On se dit, puisqu'on moi on me dit tout le temps ça, pourquoi je le dirais pas aux autres? Et c'est pour ça qu'il y a un petit peu ce phénomène où il y a beaucoup de personnes en surpoids qui ont tendance aussi à essayer de se comparer à d'autres personnes en se disant, oui mais voilà, moi certes je suis comme ça, mais regarde cette personne, elle est encore plus grosse. Et c'est une attitude ultra toxique, mais en fait on a toujours été mis en compétition les uns avec les autres. Et on essaye un petit peu de se rassurer comme on peut.
Ouais, et puis il y a ce côté aussi un petit peu, positif certes, mais un peu pervers du body positive, c'est que tout d'un coup, c'est comme s'il y avait une façon d'être gros qui était mise aussi en valeur, quoi.
Bah toujours les mêmes silhouettes, hein, un petit
c'est
peu.
Ça.
C'est ce qu'on appelle dans la presse féminine l'effet Kim Kardashian,
ouais.
C'est-à-dire des gros seins, des hanches marquées,
ouais.
Des grosses fesses,
ouais.
Mais un ventre plat. Et en fait, tu regardes toutes les personnes qui sont grosses, il y en a très peu qui ont un ventre plat de façon naturelle.
Ouais, et puis c'est vrai que en fait c'est ça, c'est une forme de silhouette, parce que moi je me souviens ce qui m'avait vraiment marqué, c'était la série Girls de Lena Dunham, et où, je sais pas si on peut dire qu'elle est très grosse, tu vois.
C'est ça le truc, c'est qu'elle est montrée un petit peu en exemple comme la grosse, alors qu'en fait elle fait un 44.
Ouais.
44 c'est la taille moyenne des Françaises.
Ouais.
Donc voilà,
c'est pas
hors norme.
Non.
Je veux dire, à partir du moment où tu trouves encore ta taille chez H&M,
bah oui,
c'est que t'es pas grosse. En tout cas pas au sens propre du terme, mais à partir du 38, au sens sociétal du terme, t'es grosse.
Mais ce qui était quand même cool, c'était qu'en fait, au-delà de, voilà, de son poids, il y avait sa physiologie qui était vraiment très... on ne l'avait jamais vu ça à l'écran. En effet, d'avoir des hanches très larges et des tout petits seins.
Des petits seins, oui.
Et des gros bras. Enfin, tu vois, un truc, un corps, je ne sais pas comment dire, c'était le sien. Mais ce n'était pas... je trouve qu'elle est... Enfin, ce n'est pas le corps des icônes body positive, tu vois.
Non. Et ça fait du bien de voir des représentations comme ça. Et c'est aussi un petit peu, moi, ce qui m'a poussée à me mettre à la photo au final. C'est de me dire, j'ai pas vraiment l'habitude de voir des corps comme le mien. Et pourtant, je sais qu'ils existent. Et du coup, j'ai envie de le montrer, de montrer que voilà, Surtout que la différence, c'est que moi, je sais que quand je suis habillée, j'ai l'impression d'avoir... Enfin, je donne l'impression d'avoir un corps de grosse très normé. Parce que j'ai la taille marquée, j'ai des hanches, j'ai des gros seins, j'ai des grosses fesses. Mais en fait, dès que je me déshabille et que j'enlève mes culottes taille haute, bah voilà, j'ai du ventre, j'ai le ventre qui pend un petit peu, j'ai les seins qui pendent. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à assumer parce que c'est quelque chose qu'on nous a appris à voir comme quelque chose de moche. Alors qu'en fait, je veux dire, même les nanas les plus minces, passé un certain âge, elles auront les seins qui pendent.
Bien sûr, mais on ne te reproche pas d'être trop jolie ? T'as pas eu des haters ou hateuses parce que t'as un visage quand même, t'as un tout petit nez, t'as des yeux très clairs. Enfin.
Eh ben écoute, j'ai pas eu ce reproche là parce que alors je sais qu'il y a beaucoup de grosses qui l'ont eu et notamment Stéphanie Zwicky, qui a été une des premières blogueuses grande taille de France. À qui on disait tout le temps qu'elle avait un visage de mince. Parce qu'elle n'avait pas des grosses joues, elle avait des pommettes hautes, elle n'avait pas de double menton. Et en fait, on lui disait tout le temps, oui, mais t'as un visage de mince, c'est pour ça que tu plais. Et c'est là que c'est hyper insidieux, en fait, parce qu'encore une fois, on est tellement souvent mis en concurrence que même dans le milieu du body posy, qui est censé être le milieu le plus ouvert, c'est un peu des conneries toutes ces histoires, on trouve toujours le moyen de dire, oui, mais toi, t'es pas assez, toi, t'es trop ceci, c'est pour ça que toi, t'es accepté et pas moi. On est toujours en train de se battre les uns avec les autres, au même titre que dans le féministe, il y a toujours les gens qui disent, toi, t'es pas assez woke et toi, t'es trop woke.
Ouais, c'est sûr. Oui, c'est vrai que... Mais nous, dans notre petit groupe qu'on s'est créé, en tout cas, on ne l'a pas... Alors, je ne sais pas si tu as vu les stories, une des filles de notre groupe qui a fait de la chirurgie esthétique. Oui. Ça m'a fait un peu flipper quand même.
Bah, moi, pas tant que ça, parce que je pense que c'était une décision qui était mûrement réfléchie. De toute façon, tu ne claques pas une somme comme ça et tu ne passes pas sur le billard sans y avoir vraiment, vraiment réfléchi. Et en fait, moi, j'ai rien contre la chirurgie esthétique. Je trouve que c'est très bien que les gens qui en sont incapables puissent s'assumer comme ils le sont et puissent s'aimer et se plaire. Mais que si vraiment ça te rend malade et que tu n'y arrives pas, bah, passe par la case chirurgie. Hein. C'est quelque chose qui existe, donc pourquoi s'en priver ?
Toi, c'est jamais un truc que tu t'es dit, tiens, je vais le faire, non ?
Quand j'étais plus jeune, je me disais, oh là là, quand j'aurai 18 ans, je vais faire une liposuction, comme ça, je serai mince, et enfin, on arrêtera de me faire chier avec tout ça. Mm-hmm. Et en fait, j'y ai réfléchi, et je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie de m'imposer une chirurgie à risque, juste pour qu'on arrête de m'emmerder ? Est-ce que j'ai envie de prendre le risque de mourir sur une table d'opération juste parce que j'ai des gens qui me disent « Ah ah, t'es grosse !» Alors que bah oui, je suis grosse et en fait, moi, ça me va très bien comme ça.
Ouais, c'est clair, mais c'est... Et donc, tu te dis que finalement, c'est récemment que tu l'assumes aussi, aussi joyeusement, c'est ça ?
C'est ça, ça fait quelques années que je travaille sur moi par rapport à ça. L'écriture de ce bouquin m'a appris beaucoup de choses parce qu'en fait, du coup, j'ai été obligée de replonger dans mes souvenirs d'enfance. J'ai retrouvé des vieux journaux intimes que j'ai relus. J'ai retrouvé des vieilles photos où j'étais super fière de prendre la pose avec des copines à des anniversaires. Et je me disais, en fait, moi, j'ai jamais vraiment eu conscience, avant qu'on me le dise, que j'étais grosse et j'ai jamais eu l'impression de ne pas être jolie. C'est-à-dire qu'en fait, là que je vois qu'en fait, la grossophobie, c'est quelque chose de très construit. C'est qu'en fait, à partir du moment où t'as personne qui va te dire « t'es pas normale, t'es pas jolie, tu ressembles pas à telle fille dans les magazines ou à telle fille dans un film », tu vas pas te poser la question. Et je pense que tu as dû le vivre dans le milieu de la comédie et surtout en tant qu'actrice. Parce que c'est un milieu qui est hyper grossophobe et sexiste et qui est tout le temps en train de comparer les nanas les unes aux autres.
Bah, c'est terrible et en fait, moi, hélas, j'ai vécu beaucoup de grossophobie de la part des femmes. J'ai eu des remarques peut-être de mecs un petit peu maladroites ou quand j'étais enfant, j'étais en effet bouboule et donc je me faisais traiter de grosse vache. Et puis j'ai perdu du poids au CM2 et en 6e. Donc je me souviens des garçons à l'école à cette époque-là. Mais à l'âge adulte, c'était vraiment toujours les costumières quoi, et les stylistes. les femmes et les mecs gays aussi, qui étaient vraiment...
Parce que c'est des personnes, encore une fois, à qui on a tellement passé de temps à leur répéter ceci ou cela
tout
que...
Passé, ouais.
Tu vois, c'est un petit peu... c'est pas un reproche que je fais, entre guillemets, mais je sais que quand je fais des articles sur la grossophobie ou des tweets ou des posts Instagram, j'ai tout le temps des gens qui viennent me dire « c'est pas possible que tu sois grosse et heureuse. Wow. Moi, je suis un ancien gros et je suis plus heureux depuis que j'ai maigri. » Mais et j'ai envie de demander à tous ces gens-là, je fais oui, mais est-ce que tu es heureux parce que tu as maigri et que du coup tu te sens mieux dans ta peau, ou est-ce que tu te sens mieux parce que tu as maigri et que du coup tu ne te tapes plus tout le harcèlement et toute la grossophobie qui arrive à tous les niveaux dans ta vie.
Ouais, c'est fou. C'est fou et c'est vrai que ça, j'y ai été confrontée encore plus en faisant la rencontre de Barbara Butch. Et où là elle c'est quand même du niveau d'un handicap, tu vois, notamment pour prendre l'avion au point de parfois d'hésiter d'aller au théâtre à cause des sièges. Et c'est vrai qu'elle elle m'y sensibilise vachement. Parce que tu vois, samedi dernier, c'était, j'ai eu une carte blanche à...
Oui, à Wellfest.
Ouais. Il y a eu un petit incident, en fait. Bon, je pense que quand cet épisode sortira, ça sera longtemps, ça sera cet été. Donc bon, c'est pas à chaud. Mais en fait, le vendredi soir, tu vois, j'avais des artistes sur scène pour faire des impros. En fait, on faisait un action vérité géant, donc je leur posais des questions. Et puis, à vérité, ils devaient raconter une anecdote. Et, si, et le public devait savoir si c'était vrai ou faux, si c'était un poisson d'avril. Et c'est pas facile, Grand Contrôle, parce que c'est une halle, tu vois. Donc, il y a un bruit de fond quand même très, très... pour des artistes qui ont l'habitude de jouer dans des théâtres, tu vois, là, c'est pas évident. Et donc ils étaient un peu en surenchère parce qu'ils avaient envie de me faire plaisir et que ce soit drôle et d'un coup il y a l'un des artistes qui ben justement la question c'était est-ce que t'as déjà fait de la chirurgie esthétique et il raconte que, bah, que oui en fait ça se trouve que c'était vrai qu'il a fait une liposuction de, du cou mais avant de et comme ils veulent le raconter de façon drôle il décrit, il dit qu'il était gonflé, et il dit comme Monica dans Friends quand elle était grosse. Voilà, il fait cette blague. Et sur le moment, les gens rigolent. Et il y a un mec, un autre camarade sur scène qui dit « Attention, c'est grossophobe !» Mais comment dire, en pointant le doigt quand même dessus, mais avec un fond de « Est-ce que la grossophobie, c'est pas aussi un peu too much ce truc ?» Et il y a une petite... pas une gêne, parce que vraiment, c'est enveloppé dans tellement de trucs qui vont vite après que ça passe comme ça. Moi, ce que je vois pas, c'est qu'à ce moment-là, Barbara, elle se casse, en fait. Elle était dans le public à ce moment-là, et elle a pas supporté, en fait. Elle a trouvé ça hyper lourd, et elle a trouvé que c'était particulièrement indélicat dans un événement où les gens étaient censés savoir qu'elle était programmée après, tu vois. Moi, heureusement, je la vois pas partir à ce moment-là, parce que je pense que je me serais effondrée. Mais à la toute fin, au moment où elle doit monter sur scène... je vais la chercher et elle me dit Rosa ça c'est pas possible moi j'ai pas à m'infliger ça c'est pas safe. J'étais malheureuse, tu peux pas savoir, je me suis liquéfiée et elle voulait pas monter sur scène avec les autres artistes présents donc je les ai fait sortir les autres, les autres ils en sont pas rendus compte, ils étaient vraiment, ils étaient dans leur délire et puis c'est, comment dire, c'est comme le racisme ordinaire, c'est vraiment de la grossophobie ordinaire parce qu'ils ne pas une minute, ils se sont rendus compte, c'était pas, j'en ai entendu hein, des blagues méchantes, c'était pas de cet ordre, enfin, c'était un truc de langage quoi, un peu, enfin un truc un peu, et puis moi, de ma faute, moi aussi qui les ai mis dans cette situation, dans un truc où le bruit est compliqué, où ils doivent sortir l'artillerie lourde et où on va parfois sortir une vanne un peu, j'en ai fait plein dans Outline, un peu beauf. Alors que moi, j'ai pas d'excuses parce qu'Outline, c'est vraiment genre confiné, tu vois. Mais et puis bon, son set, elle a commencé à jouer. Finalement, ça, elle s'est détendue. J'étais là, je la regardais. Je pense qu'elle sentait tout mon amour. Et puis, elle a fait un set incroyable. Les gens étaient en folie. Et après, on a discuté. Et je me suis excusée. Et elle m'a dit... Et puis, on a vraiment pris le temps de parler. Elle m'a dit, mais tu sais, voilà... si moi je réagis pas comme ça, qui réagit comme ça, quoi, en fait, tu vois ?
Bah oui, parce qu'on a tellement, enfin, la société en règle générale a tellement l'habitude d'entendre ces blagues. Enfin, je veux dire, c'est facile de faire des blagues sur les gros, parce que ça te permet de te rassurer et te dire, moi, je suis mieux que cette personne parce que moi, je suis mince. Alors que t'as des personnes qui sont très minces naturellement et qui ne font aucun effort et qui ne mangent que de la merde et qui voilà. Et en fait, ce que plein de personnes ne se rendent pas compte avant d'avoir vécu ce type de discrimination. C'est que c'est pas juste une petite blague. Parfois, c'est la blague de trop. C'est parce que t'en as entendu 35 avant dans la même journée que t'as reçu 40 DM qui te disent « Il faut que tu fasses une liposuction, il faut que tu perdes du poids. Chope un... » Enfin, moi, je sais que j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit « Tu seras heureuse le jour où tu choperas un cancer.
Oh, mon Dieu.
Parce que grâce à la chimio, tu vas perdre du poids. »
Oh mon Dieu.
C'est des choses qui sont hyper violentes à entendre, et parfois il suffit que quelqu'un dise « Ah oui, ah bah regarde mon double menton », et tu te dis c'est juste le truc de trop.
Ouais, on n'imagine pas, franchement on n'imagine pas, mais même, t'as été l'une des premières à subir du harcèlement dans Hotline, on en a toutes finalement.
On en a toutes un petit peu subi, ouais.
Ouais, à différents moments. Naya, elle a eu sa vague.
Ouais, Naya, elle en a beaucoup souffert parce que les gens s'en prennent à elle avec une facilité, je sais pas ce qu'elle leur a fait, mais...
Ouais, c'est terrible. Toi aussi, c'était la première, c'était sur les premières photos qui ont été partagées par Spotify.
J'ai eu droit à des magnifiques montages de mon corps sur le Muppet de Miss Piggy, des comparaisons avec Peppa Pig, ce genre de choses. Donc, c'est très intelligent, hein.
Franchement, j'en reviens pas. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais ça, en fait, vraiment à ce niveau-là. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Barbara en août, mais déjà à ce moment-là, je découvrais, parce que tu vois, moi, c'est aussi un peu récent, les réseaux sociaux. Mm-hmm. Et pareil, quand j'ai eu mon bad buzz, quand il y a le gros mascu qui a fait sa vidéo, le youtubeur, tu sais...
Quelle grosse merde, lui aussi.
Elvire, elle me disait, il faut que tu ailles signaler tout machin. Il y avait plein de choses. Je suis même pas allée signaler la vidéo.
Ah, moi, j'y suis allée.
Ah ouais, c'est
j'y
vrai.
J'y suis allée. J'ai envoyé tous mes collègues et tous mes pigistes le faire. Mon mec l'a signalé aussi.
Oh, t'es trop mignonne. T'es
non, la vidéo, c'était vraiment n'importe quoi. Il y avait pas de fond, pas de forme. C'était un mec dans sa complaisance de se dire, moi, j'ai une paire de couilles, donc forcément, je suis plus drôle. Et avec une femme, et ça va être très méchant ce que je vais dire envers elle, mais qui est juste là pour servir de prétexte et jouer les pick-me et dire « Oui, oui, tu as raison, je suis d'accord, et pourtant je suis une femme, donc c'est la preuve que ce que tu dis n'est pas déplacé.
Ouais. »
Et non, en fait, cette vidéo était entièrement déplacée, elle n'avait aucun intérêt.
Ouais, j'ai reçu, en fait, moi je ne suis pas allée la voir, j'ai reçu pas mal de messages, et ensuite, en effet, ouais, j'en ai reçu beaucoup d'insultes. Mais bon, en fait, peut-être que tu vois aussi... Alors, je ne vais pas excuser cette vidéo que je ne connais pas parce que je ne suis pas allée la voir. Mais je sais qu'il a sorti hors contexte quelque chose de très violent que j'aurais dit, que j'ai dit dans le podcast avec Monsieur Poulpe où je disais que je n'étais pas attirée par les hommes petits. Et je ne le dis pas comme ça, je les scanne pas comme des hommes, c'est ça. Donc de la petitophobie. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas c'est quoi le terme. En tout cas, c'est vrai que, et je me souviens que c'était quand même un peu une discussion qu'on avait eue une fois dans Hotline.
Je crois que dans un des tout, non, je me demande si c'était pas dans le premier épisode.
Ouais.
Où Elvire et moi, on n'était pas d'accord. On était à fond derrière les mecs petits.
Vous trouviez ça trop violent, en fait, ma façon de m'exprimer, et vous trouviez, et c'est vrai. Et moi, je voulais pas revenir dessus parce que j'étais là. Et je disais, j'ai le droit de pas être attirée par les mecs petits. Après, il y a une différence entre j'ai le droit et ensuite la façon dont pour faire des blagues, j'exprime ça et où je peux exprimer. Tu vois, je dis, je les scanne pas comme des hommes. C'est très violent, en fait.
C'est très violent, mais après, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte.
C'est un podcast.
C'est-à-dire que c'est un podcast, c'est de l'humour. Enfin, moi, j'ai écouté beaucoup d'épisodes des mecs que je veux ken. Tout le monde en prend pour son grade. Hein. Les grands, les petits, les beaux gosses, les moches. Donc, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu te moques de tout le monde et de toi-même en premier,
c'est ça.
Tu peux te permettre de faire ce genre de blague du moment que... Quand tu blesses vraiment quelqu'un personnellement, et pas forcément toute une catégorie, mais quelqu'un personnellement, je sais que toi, tu présenteras toujours tes excuses à cette personne. Et voilà, il y a beaucoup de mecs qui comparent en mode « Oui, les femmes, elles veulent pas sortir avec des mecs petits, alors pourquoi nous, on devrait sortir avec des grosses ?» Sauf qu'en fait, y a une différence entre discrimination classique, entre guillemets, et discrimination systémique.
Ouais.
C'est pas la même chose.
Ouais.
Et une des raisons pour lesquelles les femmes ne veulent pas sortir avec des mecs petits, c'est aussi pour une question de bonne vieille culture patriarcale où on nous apprend que la femme, elle doit sortir avec un mec qui est grand, un gros balèze qui va la protéger. Et que voilà, à partir du moment où une nana sort avec un mec qui est plus petit qu'elle, elle va tout de suite être considérée comme une dominatrice, une meuf qui veut écraser son mec. Enfin, moi, je suis déjà sortie avec un mec qui faisait... il n'était pas plus petit que moi, mais il faisait plus ou moins ma taille. Du coup, il suffisait que je mette des talons pour être plus grande que lui.
Ouais.
J'étais aussi plus grosse que lui. Donc, tout de suite, je passais pour l'ogresse qui veut écraser son mec. Et du coup, je sais que quand j'étais en public avec lui, j'étais toujours la meuf la plus mielleuse et la plus gentille du monde. Justement parce que j'avais pas envie de donner cette image
de
nana émasculatrice. Ouais, quoi.
C'est ouf. Mais bien sûr, et c'est vrai que moi j'ai été beaucoup avec des mecs maigres. J'étais adolescente, j'aimais bien le style un peu rocker, tu sais, les gars qui portent des jeans slim. Ouais, donc ça c'était à fond ma cam. Et c'est vrai que donc j'ai pas toujours été attirée du tout par des archétypes de virilité. Je crois que même les mecs trop musclés, ça me dégoûte, tu vois. Mais c'est vrai que sur la taille, je pense que c'est pas pour excuser les femmes, c'est pas une excuse facile, mais je vois dans ta thèse aussi le fait que nous, on va être jugés derrière.
Bah c'est ça.
Ouais.
Tout le monde va être jugé et c'est encore une fois, c'est la faute du patriarcat. Parce que c'est le patriarcat qui veut ça.
Ouais.
Je me suis pris un énorme shitstorm, je vais arriver à le prononcer, sur Twitter il y a quelques semaines.
Ouais.
Parce qu'il y a une étude qui est sortie qui dit que 48% des hommes refusent de sortir avec des femmes qui ne correspondent pas aux normes de la société.
Mm-mm.
Et donc, on ne parle pas de préférence physique, on parle vraiment de mecs qui n'assument pas de sortir avec des personnes. Et je me suis pris, mais je crois, pas loin de 3000 messages.
Putain.
Par rapport à ça, de gens qui disaient non mais on va quand même pas se forcer à sortir avec des grosses, avec des handicapées, avec des meufs poilues.
Wow.
Et vraiment ils mettent tout sur le même niveau, ils se rendent pas compte de la violence que c'est pour les personnes qui sont dans ces catégories. Et en fait, ils comprennent pas la différence entre attirance physique et attirance sociétale.
Mais carrément, c'est fou quand même la violence de ces incels et c'est effrayant. Et en plus, franchement, je...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je trouve quand même que les meufs, on est... En fait, c'est vrai qu'on est cool quand on juge les gars. Alors, ils disent, oui, vous aussi, vous êtes violente quand vous parlez des mecs. Moi, j'ai toujours eu des copines qui parlaient tout de suite du charme, qui parlaient tout de suite de ce que le mec lui avait dit, qui parlaient du discours.
Il est gentil, il est drôle, il me fait rire, il est élégant.
Tu sais pas ce qu'il a fait, tu vois, et non pas voilà à quoi elle ressemble. Alors que les mecs sont vraiment obsédés.
Par le physique.
Par le physique.
Par l'image que la personne va rejeter, parce que plus... En fait, plus ils sortent avec une nana qui correspond aux critères de la société, plus ils se sentent valorisés. Dans cette société, et ça fonctionnait peut-être dans les années 30, mais maintenant, il faut arrêter. Fin...
Ouais, il faut sortir de ça, quoi. Mais c'est ouf à quel point... Ouais, c'est très rare d'être... d'être vraiment aimé pour sa personnalité. Après, toi, t'arrives à trouver les bons gars, quoi. Là, récemment, t'es en couple, t'es amoureuse,
ouais,
ça se passe
très,
trop bien.
Très, très amoureuse.
Ouais.
Ça se passe très bien avec mon copain. Et pourtant, je sais que dans le regard des autres, ça peut être compliqué. Parce que pour le coup, mon copain est très mince.
Ok.
Vraiment, je pense que je fais plusieurs dizaines de kilos de plus que lui. Il est très grand, il est très mince. Moi, je suis toute petite et très grosse. Donc forcément, quand on est côte à côte, ça fait un peu un truc bizarre. Et pendant hyper longtemps, je me suis dit, mais comment un mec comme ça peut s'intéresser à une fille comme moi ? Alors que j'ai hyper confiance en moi et je sais que je suis super belle. Oui. Et j'adore draguer, j'adore séduire et je connais mon charme.
Ouais.
Et en fait, j'en ai beaucoup discuté avec lui. Il me fait, mais en fait, c'est moi qui me pose cette question tout le temps. Je me demande comment une meuf aussi belle, aussi confiante, aussi sûre d'elle, aussi intelligente a pu accepter de sortir avec moi. Et en fait, voilà, on se rend compte qu'il faut aller au-delà de toutes ces apparences. Parce qu'en fait, derrière la coquille, entre guillemets, il y a tellement d'autres choses qui font qu'un couple fonctionne ou ne fonctionne pas.
Et après, il y a aussi quand même pas mal de mecs, à l'inverse, en effet, des fétichistes. T'en as peut-être déjà rencontré.
Ouais. Les fétichistes, c'est quelque chose d'assez insidieux parce qu'il faut, trouver un petit peu la ligne entre les mecs à qui tu plais et les mecs à qui tu plais parce qu'ils ont une obsession. Et voilà, à partir du moment où il te fait des compliments, ça tourne toujours autour de ton poids ou à des comparaisons en mode « Ah ouais, moi j'aime que les grosses, j'adore ton gros ventre, j'adore tes grosses fesses. Oh, tu veux pas remanger un petit peu, allez. Oh non, tu vas pas perdre du poids et faire un régime. » Ça peut paraître gentil, mais en fait, ça tombe dans un fétichisme qui est pas forcément plaisant et... Je le vis, moi, en tant que personne grosse, mais je sais que des personnes de couleur le vivent encore plus que moi. Parce que la fétichisation, c'est quelque chose qui a été très, 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 très présent dans la pornographie, dans la culture, où voilà, y a toutes sortes de clichés autour, que ce soit des femmes noires, des femmes asiatiques, c'est atroce en fait de voir à quel point on est toujours ramené à quelque chose de sexuel.
Ouais, c'est ça, c'est un fantasme, mais c'est pas de dénué d'humanité quoi.
C'est ça, on existe en tant que fantasme un petit peu
exotique
et interchangeable, parce qu'en fait quand tu reçois toujours ce genre de compliments et rien de vraiment personnalisé sur ce que tu es et ce que tu aspires à être, bah tu dis en fait entre moi et une autre grosse, quelle est la différence ?
Ouais.
Est-ce qu'ils m'aiment parce que je suis moi ou est-ce qu'ils m'aiment parce que je suis grosse ? Est-ce qu'ils bandent parce que je suis moi ou est-ce qu'ils bandent parce que je suis grosse ?
Ouais.
C'est hyper insidieux et c'est jamais facile à vivre en fait.
J'aimerais bien un jour me dire, est-ce qu'ils baissent pour mon succès ou est-ce qu'ils baissent pour...
Franchement, je pense que ça ne tardera pas à arriver. Attends, t'es en train de cartonner partout, tout le monde parle de toi.
J'espère ne pas, que la question se
pose. J'espère que tu n'auras jamais à te poser cette question parce que tu tomberas sur des personnes qui te montrent qu'elles t'aiment pour ce que tu es et pour tout ce que tu fais.
Bah écoute, c'est gentil, mais c'est marrant parce qu'aussi on parle beaucoup de cul et je crois que en ce moment récemment, tu sais que je suis en train d'explorer des trucs toute seule. Parce que j'ai une pubalgie depuis mars 2020, depuis le début du premier confinement. Et en fait, j'ai compris, mais je pense que c'est grâce à vous et au compte sexo sur Insta qu'on pouvait aussi soi-même se stimuler l'anus. Et en fait, je me rends compte, j'ai testé un sextoy, je te donnerai la marque après.
Avec plaisir.
Parce que je cite des marques dans mon podcast parce que quand elles me donnent de la thune.
T'as bien raison.
Mais en fait, je pouvais le plier et résultat, je pouvais rentrer facilement l'embout dans mon anus. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au-delà du plaisir que ça me procurait, en fait, je sais pas sur le moment si ça m'en procurait, mais par contre, ça m'a détendue énormément. Et ça, c'est marrant, c'est aussi vraiment... le fait de se dire bah c'est possible quoi, mais je crois qu'en fait si c'est quand même une discussion, tiens c'est pas dans Hotline, c'est Charline que j'ai revue récemment qui parlait de l'anus, du fait que je sais plus j'ai lu de se masturber soi, de soi-même se toucher l'anus et c'est vrai qu'en fait déjà tout seul c'est quand même cool de le faire et ça détend en fait, on devrait le faire plus régulièrement, mais toi t'aimes pas trop ça.
Bah moi j'aime pas trop ça dans le cadre d'une pénétration, genre vraiment la sodomie en elle-même c'est une pratique qui ne fait ni chaud ni froid, ça me fait pas de mal, ça me fait pas de bien, donc je n'y vois aucun intérêt. Par contre j'aime la sensation, et ça va avoir l'air d'être très trash dit comme ça donc je m'en excuse par avance, j'aime la sensation d'être remplie, c'est-à-dire que par exemple j'adore porter des plugs.
Ok.
Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup en me masturbant, parce que je me sentais pas forcément en confiance à l'idée de le faire avec des partenaires quand j'ai commencé un petit peu cette exploration. Parce que dans ma tête, je me disais, si je leur dis que j'ai envie qu'ils me mettent un plug, tout de suite, il va vouloir me mettre sa bite dans le cul et j'ai pas ça, j'ai pas envie de ça du tout. Donc en fait, j'ai commencé à explorer ça toute seule.
Ça ressemble à quoi un plug pour les auditeurs et auditrices?
C'est comme... Ça peut avoir différentes formes. Généralement, c'est un peu la forme d'une grosse goutte d'eau avec une petite garde, très important. Les sextoys qu'on utilise pour de l'anal, ça doit toujours avoir une garde parce que sinon, ça fait aspirateur. Et on se retrouve aux urgences pour éviter soit une occlusion, soit une perforation intestinale. C'est pas très fun. Donc voilà, il y en a de toutes sortes de tailles différentes qui vont vraiment du petit doigt au micro.
Au point. Voilà. Ah ouais. Wow, okay.
Au micro, au point, voire même des choses encore plus grosses. Hein. Oh. Y a des, On peut voir des choses assez impressionnantes parfois. Je ne sais jamais si c'est vraiment pour de la déco ou si c'est des vraies choses qui sont utilisées, mais j'ai vu des espèces d'ogives hyper impressionnantes. Parce que des boules des quilles de bowling, tu sais, presque.
Oula, ah ouais, ça fait flipper. Donc, toi, ce que tu as, c'est une petite boule.
Voilà, c'est des petites choses qui suffisent largement pour de l'exploration en solo.
Ouais, ok.
Et qui me conviennent très bien, qui en plus sont faciles à nettoyer, faciles à ranger.
Ouais, c'est ça.
Discrètes, hein, parce que faut quand même les stocker, les sextoys. Ouais. Et quand on en teste beaucoup comme moi, ça commence à prendre de la place.
Ouais, toi, tu les connais tous maintenant. Avec ton taf
Tous, peut-être pas, parce que je continue à faire des découvertes assez régulièrement et qu'il y a plein d'innovations en plus qui n'arrêtent pas d'arriver. Mais je commence à avoir un bon niveau d'expertise.
Et quand tu mets le plug dans ton anus, pendant que tu te masturbes, est-ce que tu te mets aussi quelque chose dans le vagin ?
Non.
Non.
Ouais. Pour le coup, moi, quand je me masturbe, je ne fais jamais de pénétration vaginale.
Ah.
C'est pas du tout quelque chose qui me plaît en solo.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, moi je suis très très team masturbation clitoridienne externe.
Ouais.
Que ce soit avec des vibros ou des aspichats comme on dit.
Ouais.
Peu importe. Donc non, autant j'aime bien faire de la pénétration quand je suis avec un partenaire ou une partenaire.
Mm.
Autant quand je suis en solo, pas envie de me prendre la tête avec ça, ouais, et de devoir nettoyer encore plus de trucs après.
Et tu préfères, comme stimulation du clitoris, tu préfères un vibro ou quelque chose qui vibre contre ou un aspi qui va aller sucer
Ça dépend un petit peu de mon humeur.
Ouais.
Vraiment, j'ai un petit peu des périodes. En ce moment, je suis très, très team vibro. Mm. Notamment parce que j'ai plusieurs de mes autres sextoys qui sont tombés en panne récemment. Peut-être que je les utilisais trop, peut-être que je les ai oubliés trop longtemps dans l'eau de mon bain ou je ne sais pas quoi, mais voilà, j'en ai plein qui ne fonctionnent plus. Mais ouais, je sais pas, ça m'évite.
Ouais. Tu l'utilises avec ton gars aussi?
Ouais.
Ouais.
Ah ouais, pour le coup, avec mon mec, on utilise énormément de sextoys dans notre sexualité, notamment parce qu'on ne fait pas non plus énormément de pénétration au sens propre du terme.
Ok.
Pour toutes sortes de raisons, et notamment parce que comme je suis pas sous contraception en ce moment, on n'a pas non plus envie de prendre le risque.
Oui, mais ça fait longtemps que vous êtes ensemble.
Ça fait 7-8 mois qu'on est ensemble.
7-8 mois et vous êtes pas... Ah non, t'as pas... Oui, tu veux pas...
Bah, je veux pas prendre... Je veux pas me refaire poser un stérilet parce que j'ai eu trop de problèmes avec mon ancien.
Ok.
Je veux pas reprendre de contraception hormonale parce que ça me rendait malade à chaque fois et que ça me flinguait toute ma libido.
Ok.
Donc, on est en train d'explorer un petit peu les différentes éventualités. Et en attendant, quand on veut faire de la pénétration, on met des capotes.
Ouais, d'accord.
Mais à côté de ça, il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire en matière de sexe que...
Puis surtout, au bout de 6-8 mois, est-ce que tu as encore envie de mettre la capote avec toi? À un moment, tu t'en lasses quand même.
Bah écoute, moi pas spécialement. Moi, j'ai jamais eu de problème avec la capote. Et même avec mon ex avec qui on est resté 9 ans.
Okay.
Vu que j'ai pas pris de contraceptif pendant la grande majorité de notre relation, je crois qu'on a passé 7 ou 8 ans avec la capote en fait.
Ah ouais, ok.
À partir du moment où ça dérange ni l'un ni l'autre, pour moi, c'est une très bonne option.
Et est-ce qu'avec son nouveau copain, vous avez déjà abordé la question de désir d'enfant ou c'est encore un sujet...
On en a déjà parlé parce que moi, je ne lui ai pas caché le fait que j'avais très envie d'être maman, que c'était quelque chose que je voulais depuis longtemps et que ça faisait partie des raisons pour lesquelles je m'étais séparée de mon ex parce que lui, il ne se voyait pas avoir des enfants dans un futur proche. Et que moi, si. Forcément, avec le Covid et tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, la guerre en Ukraine, la situation sanitaire, le réchauffement climatique, c'est difficile pour, surtout pour lui, mais aussi de plus en plus pour moi, de me projeter dans un avenir et de me dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'imposer tout ça à un enfant? Est-ce que c'est pas très égoïste de ma part? Donc, on en discute régulièrement, c'est pas du tout un sujet qui est tabou entre nous. On sait qu'on a tous les deux envie de fonder une famille.
Ok.
Mais on ne sait pas encore quelle forme va prendre cette famille. Et moi, je sais que j'ai toujours rêvé d'adopter et aussi d'être famille d'accueil pour les enfants, notamment pour les ados.
Un foyer.
Voilà, foyer d'accueil pour les ados qui n'ont pas de famille et qui, les ados, personne ne veut les adopter parce que c'est compliqué.
Tu serais parfaite, meuf.
Voilà.
Tu serais une mère idéale. Enfin, c'est sûr que t'as tellement de douceur et de... Enfin, ça serait extraordinaire. Vraiment, je suis sûre que ça serait vraiment une chance pour un enfant de t'avoir, de croiser sur son chemin, quoi. C'est sûr, t'as vraiment beaucoup d'amour à donner et puis de tolérance, quoi. C'est vrai que t'es hyper tolérante. Moi, je me souviens, j'étais particulièrement flattée, pardon, c'est narcissique que t'apprécies mon spectacle, mais parce que tu m'avais dit que t'étais pas non plus une grande fan d'humour.
Non, c'est vrai. C'est vrai que pendant très longtemps, dans mon groupe de potes, j'étais considérée comme la meuf pas drôle.
Ah ouais, n'importe quoi.
Parce que j'aime pas les comédies. Il y a très peu d'humoristes que je trouve drôles. Voilà. Et même des gens qui font hurler de rire les autres, que ce soit des Gad Elmaleh et compagnie, j'ai jamais... par le sketch sur le blond peut-être qui m'avait fait un petit peu rire quand j'étais ado. Et du coup, j'y ai un petit peu réfléchi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était les mecs que je trouvais pas drôles.
Ouais.
Et que du coup, dès que... Enfin, y a tout le temps, ils disent « Ouais, l'humour de bonne femme, c'est pas drôle. Floresti qui fait des sketchs sur la maternité et tout, tout le monde s'en branle. » Je fais « Bah, toi, tu t'en branles peut-être, mais pas moi. »
Pas nous, ouais.
Et je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup ri à ton spectacle, c'est parce qu'en fait, je me suis retrouvée dedans. Et qu'en plus, des humoristes comme toi en France, qui n'ont pas peur de parler de cul de façon un petit peu impertinente et pas en mode c'est hyper rare. Enfin, moi, en tout cas, j'en connais pas. Et puis, j'ai jamais vraiment eu des velléités à chercher, vu que je me disais, de toute façon, j'aime pas rire.
C'est, rien que le fait de dire le mot cuni, je me suis fait reprocher récemment par une nana sur un plateau. Qui disait « Ah ouais, ça c'est la limite. » Mais comme si c'était vraiment un gros mot.
C'est pas un gros mot,
c'est cuni. C'est pas un gros mot. Et puis, au contraire, c'est toutes les, toutes les expressions autour. Peut-être, éventuellement, il y en aura des plus salées. Et ensuite, tu peux aller chercher des métaphores, mais c'est pas un gros mot, quoi.
Mais attends, on est plus dans ces années où il y avait des groupes Facebook qui s'appelaient 18 façons de dire faire l'amour de façon un petit peu discrète.
C'est fou. Hein.
Enfin, je veux dire, tu vas pas dire faire la bagatelle dans tes spectacles, quoi. On n'est plus dans les années 20.
Bah ouais, faire la bagatelle, j'avoue, c'est
j'adore
ça.
J'adore cette expression.
C'est vrai. Cela dit, ça, c'est vraiment joli, faire la bagatelle. Ah, je me demande si je vais pas le...
écoute, si jamais tu l'utilises, je veux une petite dédicace.
Ok, d'accord. Promis, il y aura une petite dédicace. Bah, j'en profite pour passer... au petit questionnaire de Proust.
Oh. J'aime bien les questionnaires.
La qualité que tu préfères chez un homme?
L'ouverture d'esprit.
La qualité que tu préfères chez une femme?
L'ouverture d'esprit.
Le principal trait de ton caractère?
Souriante.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
J'ai failli répondre à leur ouverture d'esprit, mais on va dire que je suis un petit peu répétitive. Leurs goûts musicaux.
J'ai pensé leur ouverture d'anus, mais aucun rapport. Ton principal défaut?
Je me vexe très facilement.
Ah ouais?
Ouais. Je sais qu'on dirait pas comme parce que... en fait, je me vexe quand on attaque des choses qui me tiennent très à cœur. Typiquement, si on critique mon travail... là, je vais être vexée comme un pou parce que je mets tellement de fierté dans ce que je fais que je vais très mal le prendre. Et après, même si je me suis beaucoup déconstruite par rapport à mon apparence et que j'estime qu'il faut arrêter de juger les gens sur leur apparence, c'est toujours un petit peu vexant quand quelqu'un te dit « Ouais, t'es pas très belle, t'es pas sexy, ça te va pas cette tenue, j'aime pas tes cheveux. »
Moi, je suis hyper susceptible, là, bien sûr, la moindre remarque... Mais d'ailleurs, journaliste, c'est quand même badass. C'était un rêve quand même. Tu as toujours voulu être journaliste?
Toujours.
Toujours.
Toujours. Moi, j'ai une photo de moi qui avait découpé une boîte en carton et dessiné une télé dessus.
Oh,
et j'imitais Claire Chazal.
Ah ouais.
Voilà, quand j'avais 3 ou 4 ans. Et j'ai co-créé le journal de mon école primaire. Donc, c'est dire si ça remonte à loin, ma passion pour l'écriture et le journalisme.
Waouh. Et ça vient de tes parents, c'est eux qui t'avaient transmis quelque chose par rapport à ça ou...
Pas spécialement. Mon père a toujours beaucoup regardé les infos. Mon grand-père travaillait dans un journal.
Okay.
Lui, il était typographe, donc c'était avant l'époque des imprimantes. C'était lui qui constituait le journal lettre par lettre, à l'envers, sur les gros rouleaux pour les impresser, les imprimer. Et c'était lui, du coup, qui s'assurait qu'il n'y avait pas de faute d'orthographe dans le journal. Donc mon grand-père, il a une... d'orthographe, une grammaire, une conjugaison parfaite.
Ah, tu m'étonnes. Ça, c'est le père de ton père ou...
Le père de ma mère.
Le père de ta mère.
Ouais.
Ah ouais.
Et mon père a fait un petit peu de journalisme dans sa jeunesse parce qu'il a été un petit peu animateur radio quand il était à la fac.
Ouais.
Il a écrit quelques tribunes après. Il a ouvert un blog au début des années 2000. Enfin. Et du coup, il a toujours beaucoup encouragé mes velléités d'écriture. Et en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié avec mes parents, c'est qu'ils nous ont toujours dit « on vous soutiendra, peu importe le job que vous voulez faire, que vous vouliez être caissière, éboueur ou journaliste, médecin, avocat. Du moment que vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez faire et que vous allez être heureux, nous, on va tout mettre en œuvre pour que vous puissiez le faire. »
Et est-ce que ce qu'on a dans Outline, cet esprit de sororité, où c'est une majorité de journalistes autour de la table, c'est à l'image du milieu du journalisme ou est-ce que les rapports entre femmes, quand tu as démarré en tout cas, étaient plus violents?
Quand j'étais en licence de journalisme, c'était très compliqué parce que j'étais dans une école qui était très concurrentielle. On nous avait annoncé dès le début qu'on était 100 en première année, 80 en deuxième année, 60 en dernière année.
Ok, c'est quelle école?
C'était l'ISCPA et c'était aussi bien pour nous dire il y a des gens qui vont abandonner qu'il n'y aura pas forcément de place pour tout le monde, donc accrochez-vous. Et je sais qu'à l'époque, il y avait des gens qui étaient prêts à se faire des coups bas. J'ai une de mes copines de l'époque, des mecs ont envoyé les pompiers chez elle la veille d'un partiel.
Quoi ?
En disant qu'elle avait menacé de se suicider pour pas qu'elle puisse réviser, en fait.
Oh ! Ah ouais, c'est chaud ! Ah ouais, le bizutage, quoi !
Voilà. Donc,
mais c'était entre meufs ou non ? C'était juste entre étudiants ?
C'était vraiment entre étudiants, et après, entre meufs, on se battait un petit peu pour les stages.
Ouais.
Et après, j'étais très inquiète quand j'ai commencé le journalisme, parce que j'ai commencé dans le milieu de la presse féminine. Et moi, je voyais vraiment ça comme le diable s'habille en Prada, avec toutes les nanas dans des tenues hyper classe. Et moi, je m'habillais chez H&M à l'époque, donc j'étais là en mode... Le jour de mon entretien, j'étais allée chez le coiffeur me faire faire un brushing. J'avais emprunté des bijoux et un sac de luxe à ma belle-mère. Tout ça pour me prendre une averse et arriver comme un chien mouillé à l'entretien.
Scène de film.
Devant deux petites meufs sans maquillage, en Converse et en jean déchiré.
Bah ouais.
Et je me suis dit, ah ok, en fait, j'avais juste une mauvaise idée du truc. Et en fait, plus ça va, moins il y a de concurrence, en tout cas, entre femmes dans le métier de journaliste. On essaye de se soutenir, de se passer les bons plans, de se prévenir quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est toxique dans une rédaction. Ouais. Parce qu'en fait, on en a marre de ce silence qui ont poussé énormément de femmes, au final, à se faire agresser au fil des années et à arrêter. Et voilà, on sait que le journalisme, c'est un métier compliqué. Il y a très peu de place pour les femmes journalistes, à part dans des domaines très, très féminins.
Ouais.
Et du coup, voilà, maintenant on se fait passer le message.
C'est génial. Ouais, PPDA.
Bah, typiquement.
Ouais.
Typiquement, moi je sais que j'ai bossé chez TF1.
Ouais.
Lui, il n'était plus à l'époque, mais j'entendais un petit peu des bruits de couloir. Et je citerai pas de nom parce que j'ai pas envie d'avoir de problème, mais je sais que quand j'ai bossé pour certains groupes de presse, ça m'est déjà arrivé d'entendre des journalistes me dire « Ne prends pas cet ascenseur.
Wow.
Pas à ce moment-là, pas à cette heure-là. »
Ouais, tout le monde savait, quoi.
Voilà, c'était des choses où en fait tu te rends compte que tout le monde savait, mais personne ne dit rien, puis t'oses pas forcément dire le nom parce que t'as peur que ça tombe dans des mauvaises oreilles. Et en fait tous ces mecs hyper toxiques du milieu du journalisme, ils ont tendance à un petit peu beaucoup se rapprocher des jeunes stagiaires pour essayer de se les mettre dans la poche, se dire comme ça peut-être qu'elle me racontera les secrets, je saurai qui dit quoi de moi. Donc voilà, il y a une attitude vraiment très très toxique dans plein de rédactions. C'est aussi pour ça, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de journalistes aussi qui décident d'être pigistes, freelance, indépendants. Mais voilà, s'il y a des gens un petit peu toxiques qui écoutent ce podcast, sachez qu'on parle de vous entre nous et que tout le monde sait maintenant qui vous êtes. Et dans ce milieu, on aura toujours des gens pour prévenir les nanas qui sont en danger.
Et est-ce qu'il n'y a pas un peu de jeunisme ? C'est-à-dire justement ce phénomène de la stagiaire ou de la nana qui... C'est-à-dire que dans le journalisme, peut-être c'est un peu pareil dans les métiers de l'humour. C'est-à-dire que si tu passes 30 ans, il faut vraiment devenir la meilleure, il faut devenir très bon dans ce que tu fais. Sinon, on aura toujours tendance à prendre quelqu'un de plus jeune.
Alors, je pense qu'il y a un petit peu une forme de jeunisme dans le journalisme, mais plus dans le sens où les jeunes, ils sont moins expérimentés. On leur dit tout le temps que c'est un milieu très précaire et où du coup, on va les pousser à accepter n'importe quel prix. Et ça, c'est quelque chose auquel j'ai été beaucoup confrontée pendant ma jeunesse. Et là, heureusement, moi, j'en suis arrivée à un stade où j'ai plus besoin de me battre avec les rédactions pour imposer mes prix parce que...
Ouais, t'as été reconnue.
Je suis reconnue, je connais la qualité de mon travail et je sais que j'ai pu faire mes preuves. Mais récemment encore, j'ai des médias qui m'ont proposé des sommes ridicules pour des articles hyper longs. Et quand je leur dis, mais vous vous rendez compte que le groupe adverse me propose 10 fois plus pour le même article, vous ne posez pas la question de savoir chez qui je vais aller travailler, en fait.
Ouais, c'est marrant, ça ressemble quand même un peu au métier de comédienne. D'ailleurs, dans le groupe WhatsApp qu'on a, je partage ces anecdotes, j'ai l'impression que quand même les influenceuses sur Instagram, elles ont d'autres problèmes. Mais par contre, en effet, ouais, en termes de négo avec les marques, elles sont dans des trucs complètement bien plus élevés, dans des tarifs bien plus élevés que ce que nous, on a l'habitude parfois d'accepter, de pratiquer, quoi. Ouais, mais ça va faire changer les choses.
Bah, c'est ça, c'est intéressant aussi ce qu'on a avec Hotline et avec notre petit groupe.
Ouais.
Moi, je sais que Elvire, par exemple, m'a appris énormément de choses en matière de droit, des contrats, de négociations.
Ouais, c'est une fucking warrior.
Voilà, là, on commence à me proposer un petit peu des partenariats rémunérés. Et tout de suite, elle m'a proposé de me coacher, de me proposer des grilles pour savoir un petit peu quelle était la valeur de mon contenu.
Carrément.
Et c'est quelque chose que je trouve génial.
Ouais, moi aussi, elle m'avait aidée sur l'un des tout premiers partenariats à mettre des limites, absolument. Et ouais, c'est important parce qu'en effet, c'est très dur d'être sa propre boss. Ça, moi, c'est un autre truc. Et justement, tu vois, parfois, je me dis, je vais faire des partenariats avec des sponsoring. Et c'est Acast, la plateforme qui diffuse mon podcast. Je sais pas si je suis censée le dire, mais bon, bref, ils prennent 40%. Tu vois, mais en fait, ça les vaut parce que d'être en direct avec les marques, je trouve ça épuisant. Et moi, j'avoue, la partie négo, mais peut-être parce que c'est mon côté, entre guillemets, artiste hypersensible, alors que toi, ta casquette chef d'entreprise ferait que tu as pris l'habitude de ne pas te faire marcher sur les pieds, d'imposer certaines choses.
Bah, ça a été très difficile au début, et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis beaucoup sous-vendue à l'époque, parce que j'avais le réflexe d'attendre en fait, qu'on me propose un tarif. Et de me dire, bon, bah, s'il me propose ça, c'est qu'il propose ça à tout le monde, et que c'est comme ça et pas autrement. Et en fait, j'ai interrogé récemment une juriste spécialiste dans la négociation de salaire,
okay.
Et elle m'a dit, en fait, tu, à partir du moment où toi, tu proposes une somme, tu prends une position de pouvoir. Et du coup, tu dis, mon travail mérite ceci.
Ouais.
Si vous n'êtes pas prêt à me proposer ça, c'est que vous ne voulez pas ma qualité de travail.
Ouais, il faut connaître sa valeur, quoi.
Voilà. Et du coup, récemment, au mois de décembre, j'ai prévenu quasiment tous mes clients qui, selon moi, me sous-payaient que j'allais augmenter mes tarifs.
Ouais.
Y en a pour qui j'ai triplé mes tarifs.
Ouais.
Et tout le monde m'a dit oui sans la moindre négociation. Donc je me suis dit, putain, tout ce temps perdu, tout cet argent gâché, ces vacances aux Maldives que j'aurais pu prendre avant le Covid.
Ouais, mais c'est un chemin. Hein. Mais bah oui, mais c'est encore patriarcat, hello. Mais c'est vrai que c'était tellement mal vu pour une femme de négocier, justement. Tu vois, c'est une chose. Alors qu'un mec, c'est bien vu, il a du caractère, une mère, elle se la pète. Et un mec,
puis elle est vénale.
Elle a perdu la tête. C'est un vrai boulot. Moi, j'ai encore du mal parfois. Ce matin, tu vois, il y avait une nana qui m'appelle et qui était hyper, hyper agressive. Faut que je te laisse, tu dois partir.
Non, je regarde juste quelle heure il est. Pour. Va pas falloir que je tarde trop.
T'as raison, je me dépêche.
T'inquiète pas.
Ton occupation préférée?
Écrire.
Ton idée du bonheur?
Une maison au bord de la mer.
Quel serait ton plus grand malheur?
Ne plus pouvoir faire ce que j'aime faire.
Donc écrire. Ce que tu détestes par-dessus tout?
Le patriarcat. J'allais dire les hommes, mais c'est pas totalement vrai. Mais ouais. Non, le patriarcat et tout ce que ça représente.
Ton état d'esprit actuel?
Super heureuse.
Merci Laetitia.
Merci Rosa.
Et voilà mes oursons, c'était Laetitia Reboulot. Lisez son livre « Journal de bord d'une grosse » disponible en exclusivité sur la plateforme Doors Stories. Et j'anticipe déjà vos questions. Oui, je souffre toujours de ma pubalgie, ma tendinite du pubis, c'était passé. Puis là, j'ai fait pas mal de vélo, c'est revenu. Je sais pas à quoi c'est dû, ça repartira, c'est pas grave. Comme convenu en intro, je vous donne quelques infos sur ma rentrée. Outre la reprise du spectacle à la Nouvelle Scène, toujours les vendredis, samedi 21h et la tournée, je serai les 16 et 17 septembre à Aix, je vais continuer à développer des projets d'écriture. Certains d'entre vous m'ont félicité suite à la nouvelle donnée en outro de l'épisode précédent avec Nicole Ferroni. Voilà, je vais adapter mon livre en série. J'ai même rencontré la potentielle réalisatrice ce matin à Belle-Île. C'était génial, je dois continuer à bosser sur mon pitch et accoucher de 15 pages convaincantes. Parfois mes idées partent dans tous les sens et j'ai peur de m'y mettre parce que j'ai peur de mal faire. Mais il faut surmonter cette peur, mal faire, mal écrire, mal dire, puis revenir sur le doc, barrer, supprimer, reformuler, simplifier. C'est pas évident pour moi de revenir à l'écriture audiovisuel car j'étais partie en assez mauvais termes avec cette forme. J'avais écrit et réalisé un premier court-métrage, La Piscine, puis j'ai développé un moyen qui n'a jamais vu le jour et dont j'ai repris le thème et l'histoire dans plusieurs chapitres de mon livre. C'est l'histoire d'amour avec Joachim Ancolo. Aujourd'hui, je me sens plus forte et j'y mets moins d'enjeux sur l'écriture audiovisuelle car en fait, ma priorité, c'est le spectacle. Il faut que ça marche, il faut que je remplisse. J'ai le podcast qui m'apporte beaucoup de joie. C'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de gratification. Donc, j'ai pas du tout tous mes œufs dans le même panier. Je pensais pas être capable d'écrire un livre et pourtant, il a vu le jour. Donc, j'ai le courage aujourd'hui de me lancer dans l'aventure d'une série. Adrienne, ma meilleure amie, me dit de foncer d'ailleurs depuis plusieurs années. Le problème de l'écriture audiovisuelle, et notamment celle d'un pitch, c'est qu'il faut être très concise en fait, exprimer clairement des concepts, alors que moi je suis la pro de la divagation, de l'impro, de sauter d'une idée à l'autre. Je me force sur scène à mettre des blagues, des punchs, mais je suis assez littéraire quoi. Ce qui me va dans le stand-up, c'est que ça demande pas non plus une structure incroyable. Le sens se dégage du tout. Ce qui compte, c'est de se présenter en toute sincérité, je crois, plus que de raconter une histoire. Moi j'ai peur des rebondissements fake. J'aime bien écrire des poèmes. Et puis je me lance aussi dans un vrai travail d'adaptation et d'imagination alors que j'étais plutôt dans l'autobiographie quoi jusqu'à présent. Bref, plein de challenges mais ça va aller. D'ailleurs je recevrai certainement des scénaristes dans le podcast et on continuera à avancer ensemble. Cet espace est mon journal de bord et je vous embrasse bien fort. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.